Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cet épisode spécial du CKB Show. Donc aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je suis tout seul. Nico n'est pas là. Et je vais vous parler de l'événement Unpacked 2019 de Samsung qui a eu lieu mardi dernier. Donc voilà, avant qu'il soit un peu trop tard et que ça devienne complètement obsolète comme news, j'ai envie de prendre le temps de faire un petit retour sur l'événement. Donc si vous suivez un petit peu les news tech, vous avez probablement entendu parler du nouveau appareil Samsung pliable. Donc voilà, donc le Galaxy Fold est un appareil qui a été qui est attendu quand même depuis assez longtemps, puisque Samsung avait fait une démo en novembre déjà de l'année dernière d'un téléphone pliable. Sans forcément donner de nom ni de date, mais en présentant simplement ce qui était à l'époque un prototype. Voilà, donc c'est plus un prototype, c'est aujourd'hui un appareil qui est pas encore complètement disponible, mais qui sera disponible très très rapidement. Je vais vous donner tous les détails tout de suite. Donc voilà, donc il a été présenté avec ce qui est a priori l'appareil de série, donc c'est plus un prototype. Et Samsung nous a aussi donné tout un tas de détails. Donc voilà, donc il y a aussi d'autres appareils qui ont été présentés, la nouvelle gamme des fameux Galaxy, qui sont un peu les appareils phares de Samsung, plus quelques accessoires dont j'ai aussi vous parlé. Mais voilà, on va rentrer dans le vif tout de suite et on va parler du Galaxy Fold. Que dire de cet appareil? Déjà, Samsung a fait l'effort, enfin a insisté sur le fait qu'en fait il lançait plus qu'un appareil, il lançait vraiment une nouvelle catégorie d'appareils en fait. Puisque les téléphones pliables, c'était jusqu'à il y a quelques mois, on va dire, de la science-fiction. Et là, pour la première fois, on a un appareil qui présente cette capacité d'être pliable. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? Imaginez, si vous n'avez pas encore vu les photos et les vidéos, imaginez en gros un appareil qui ressemble un peu à un livre en fait. Je pense que c'est la façon la plus simple de le décrire. Un livre qui aurait une couverture en fait, donc il y aurait sur ce qui pourrait être la page de couverture un écran. Et quand vous l'ouvrez, et ben vous avez un écran plus grand à l'intérieur. Alors il n'y a pas plusieurs pages, hein, c'est juste en gros c'est soit fermé soit ouvert. Mais voilà, à l'intérieur on a donc un écran de 7,3 pouces. Et à l'extérieur, on a aussi un écran de 4,6 pouces. Donc on a deux écrans pour le prix d'un. Un écran qui est la taille de, j'allais dire un tout petit téléphone, mais aujourd'hui, il n'y a pas tellement de smartphones qui ont... Enfin, ici, il y a peut-être quelques smartphones qui ont des écrans de 4,6, mais ça reste quand même un écran très petit. L'avantage de ça, c'est que quand l'appareil est plié, finalement, il tient assez facilement dans votre poche. Puisque la largeur de l'écran est assez restreinte. Et par contre, quand vous l'ouvrez, alors là, vous avez 7,3 pouces, donc c'est une petite tablette, en fait, qui vous permet de regarder des vidéos, de naviguer sur une carte avec Google Maps, de lire, si vous aimez bien lire sur un écran. Donc voilà, donc ça vous offre toutes les possibilités que vous avez sur un écran de taille plus importante. Donc au-delà de ça, ils sont aussi vantés le système de charnière qu'ils ont développé pour l'occasion. Donc faut bien imaginer que donc l'écran est flexible, mais malgré tout, comment dire, c'est pas, on parle pas d'une feuille de papier. Enfin c'est quand même un appareil rigide qui a besoin d'une charnière. C'est un peu comme un livre en fait. Je pense que l'idée du livre est assez bien adaptée. Le parallèle avec le livre est assez bien adapté. Et donc du coup ça veut dire que même si l'écran à l'intérieur est pliable, il faut quand même que vous ayez un système de charnière qui soit suffisamment robuste pour supporter ouverture fermeture, et ce a priori des centaines de milliers de fois. Donc voilà, donc ils ont un système mécanique à l'intérieur dans la charnière qui permet de maintenir le livre ouvert, enfin maintenir le, pardon, l'appareil ouvert ou le maintenir fermé selon le mode dans lequel vous êtes. Mais a priori ça reste quand même assez invisible pour l'utilisateur, même si on imagine qu'il y a quand même beaucoup d'efforts d'ingénierie qui ont été déployés pour faire en sorte que le système soit, comme j'ai dit tout à l'heure, robuste en fait. Donc voilà, donc il est vendu en quatre couleurs. Je me rappelle plus exactement les couleurs, mais il y a quand même un certain choix, on va dire. Et la charnière elle-même est aussi customisable. Donc vous pouvez aussi choisir une couleur pour votre charnière. Donc voilà, donc a priori, tout le monde n'aura pas le même appareil de la même couleur. Et il y a quand même un certain niveau de customisation qui est mis à disposition des utilisateurs, des acheteurs. Parce que voilà, on va en parler tout de suite. Donc l'appareil est disponible le 26 avril au prix de 1980 $. Je sais pas exactement combien ça fera en euros. Je suis pas sûr que les prix aient encore été annoncés pour l'Europe. Les zones de commercialisation d'ailleurs n'ont pas encore été annoncées non plus, à ma connaissance. Donc a priori, il sera essentiellement disponible aux États-Unis d'abord, et je serais surpris qu'il soit pas disponible en Corée. Mais voilà, donc on parle d'un appareil forcément 1980 $, c'est extrêmement cher pour un appareil mobile. Malgré tout, quelques petits trucs à dire autour de ça. Bon, déjà, c'est comme je le disais tout à l'heure, le premier appareil du genre. À mon avis, ce sera pas le dernier, hein. On parle vraiment de. Alors, je sais pas si ça fera entre guillemets l'effet télé 3D où tous les appareils télé étaient 3D pendant quelques années. Et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte que finalement la télé 3D ça intéressait personne. Ou alors si c'est le début d'une nouvelle catégorie de produits. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Je pense que c'est en effet comme Samsung le dit, on va se retrouver avec tous les ans des fabricants d'appareils qui proposent des appareils classiques entre guillemets et un appareil mobile. Et d'ailleurs, bon, si vous suivez un petit peu les nouvelles de Barcelone et du Mobile World Congress en ce moment, vous pouvez voir que tous les fabricants d'appareils commencent à se mettre à l'appareil mobile. Donc il y a Xiaomi qui en a présenté un, il y a Huawei qui va en présenter un, il me semble. TCL a présenté aussi quelque chose qui est pas exactement la même chose, mais qui reste un appareil avec un écran pliable. Donc je pense que c'est l'aube d'une nouvelle ère entre guillemets dans la téléphonie mobile avec la depuis l'apparition du smartphone, on n'a pas eu énormément de et les tablettes, on n'a pas eu énormément de nouveautés sur ce plan-là. En termes de, encore une fois, de catégorie d'appareils, bon, je pense que là, les appareils pliables font office d'une nouvelle catégorie. Donc voilà, donc 1980 $, si vous avez envie, foncez. Encore une fois, je ne sais pas exactement dans quelle mesure il sera disponible en Europe et en France en particulier. Mais bon, je pense qu'il faut aussi voir ça comme un coup d'essai de la part de Samsung, le premier d'une série. Et aussi, au passage, je pense que c'est un appareil qui est présenté comme un appareil de luxe. Faut se dire qu'aujourd'hui, assez étonnamment, les appareils mobiles font partie de ces appareils grand public dans lesquels, que vous soyez millionnaire ou même milliardaire je sais pas, de la classe moyenne entre guillemets, finalement tout le monde a à peu près les mêmes téléphones, tout le monde a à peu près les mêmes appareils. Et il n'y a pas un facteur de 1 à 10 ou de 1 à 100 entre les téléphones mobiles pour les riches et les téléphones mobiles pour les gens normaux entre guillemets. Et je pense que c'est assez exceptionnel en fait, parce que si on prend je sais pas n'importe quelle catégorie de produits de grande consommation, et on a des grosses différences en fait entre le haut de gamme et le bas de gamme. Alors vous me direz, un iPhone ça coûte beaucoup plus cher que certains téléphones Android chinois, c'est vrai. Mais il n'y a pas complètement un facteur de 1 à 10, et c'est s'il y a un facteur de 1 à 10, c'est le maximum en fait. Il n'y a pas un facteur de 1 à 100 par exemple, comme on peut le voir, je sais pas, dans l'automobile par exemple. Donc voilà, donc tout ça pour dire que il y a probablement une certaine marge d'action pour Samsung pour proposer des appareils à un prix un petit peu inférieur à 2000 $. Je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre ou qui ont l'argent disponible pour acheter ce genre d'appareil, même si à mon avis Samsung s'attend à ne pas en vendre des palettes, et c'est peut-être aussi l'objectif, c'est un appareil qui est plus un coup d'essai entre guillemets, même si c'est un appareil final en production, et c'est pas l'objectif je pense n'est pas d'en faire un hit comme les Galaxy par exemple dont on va parler plus tard sont devenus. Donc voilà pour le prix et la date de mise en service. Donc encore une fois, 26 avril a priori pour, enfin pas la mise en service mais la vente. Alors, un truc à préciser aussi, il semblerait que Samsung le garde, comment est-ce qu'on dit, très près de la poitrine en anglais, mais fait tout pour le mettre, le présenter sans forcément le mettre entre les mains des utilisateurs. Donc j'étais à l'événement, comme je disais, il y avait un show floor, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça en français, en gros une zone de démonstration à la fin, en fait, à la fin de la présentation, dans lesquelles on pouvait manipuler les téléphones. Le Samsung Fold n'était pas, le Galaxy Fold n'était pas disponible, donc on pouvait pas jouer avec l'appareil, on pouvait même pas l'approcher ou le voir d'un peu plus près. Il était juste pas disponible, pas visible. J'ai l'impression que Samsung veut forcément maîtriser au maximum sa communication, mais il semblerait que ce soit pas encore complètement prêt, pas encore complètement disponible, puisqu'il ne laisse pas les journalistes ou les visiteurs de, enfin les l'audience du de leur événement jouer et regarder l'appareil. Donc c'est un petit peu surprenant. Je sais pas exactement ce que ça cache. A priori, ils ont encore un mois et demi pour finaliser le produit, donc peut-être qu'il y a encore un petit peu de travail de ce côté-là, je sais pas exactement. Voilà, donc pour en revenir un petit peu aux caractéristiques de l'appareil, donc on parle d'un son qui est fait par AKG, donc AKG qui était une société indépendante qui a été rachetée par Samsung, spécialiste des sonos et du son. Des systèmes de sonorisation. On a 12 gigas de RAM, donc ouais, c'est assez hallucinant quand on y pense. C'est beaucoup plus que pas mal d'ordinateurs portables aujourd'hui. On a une carte SD, le support de carte SD 3, donc on parlera des Galaxy tout à l'heure. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 1 Tera, voire peut-être même 1 Tera 5 de carte mémoire, enfin de mémoire par l'intermédiaire de la carte mémoire sur un appareil comme ça. Donc c'est pareil, c'est complètement délirant. On voit pas tellement ça. Enfin, il y a beaucoup d'ordinateurs portables qui n'ont pas 1 Tera de stockage. Donc là, vous avez ça dans un téléphone, c'est assez hallucinant. Deux batteries dont je ne me rappelle plus des capacités, mais on a, à ma connaissance, plus de batteries. Enfin, c'est l'appareil mobile ou le téléphone mobile, entre guillemets, avec la batterie la plus grosse. Et pour cause, en fait, puisqu'il y en a finalement deux. Donc, alors l'écran est quand même assez conséquent, hein, l'écran de 7 pouces, donc faut l'alimenter. Mais a priori, ça donnera une autonomie assez conséquente, hein. Je pense qu'on sera largement à plus d'une journée d'autonomie. Et puis 6 caméras, donc voilà, donc c'est tout est dans la démesure, mais encore une fois, il y a 3 caméras à l'arrière, un peu à la façon des Galaxy classiques. Il y a 2 caméras sur l'écran pliable, en fait. Donc quand vous ouvrez l'écran, il y a une espèce de petite encoche en haut à droite, dans laquelle il y a 2 caméras. Donc c'est les caméras selfie, j'imagine, avec une qui a un angle, enfin une caméra classique, et puis une qui a probablement un angle un peu plus important. Et puis il y a aussi une caméra sur le premier écran de façade, la couverture, pour reprendre l'analogie du livre dont je parlais tout à l'heure. Donc là, c'est pareil, a priori, c'est pour faire des selfies aussi. Donc voilà, donc un peu, c'est un peu comment dire, la surenchère, en fait, cet appareil. Mais bon, pour le prix, c'est finalement assez logique. Et puis, pour parler un petit peu du logiciel, je pense que là aussi, c'est à mon avis quelque chose qui va faire la différence entre, qui va permettre à ces appareils de téléphones pliables de se différencier les uns les autres, en tout cas au moins au début. La façon dont Android, puisque ici on parle d'Android, hein, Apple arrivera peut-être à faire des appareils pliables à un moment donné, mais aujourd'hui c'est pas quelque chose sur lequel ils communiquent des masses. On a vu passer vite fait des prototypes, enfin pas des prototypes, mais des schémas liés à des brevets, il me semble, la semaine dernière, mais bon, je pense que on est quand même à plusieurs mois de l'annonce de Samsung de support d'un téléphone pliable. Et encore peut-être même plusieurs mois, voire plusieurs années du lancement d'un appareil. Donc voilà, donc la différence, je pense, entre tous les appareils Android, ça va être le logiciel, comme je le disais, et en particulier le support du multitâche. Donc Samsung annonce deux choses, en fait, de ce point de vue-là. Donc déjà, jusqu'à trois applications peuvent tourner en même temps. sur l'écran déplié. Donc c'est quand même assez conséquent. Il n'y a pas énormément d'exemples à part bah, sur les Chromebooks d'ailleurs, où on peut arriver avec plusieurs applications Android qui tournent en même temps sur le même écran. Et bon, j'exagère un petit peu parce qu'il y a quand même maintenant il y a l'écran, le partage d'écran qui fonctionne sur téléphone Android, on peut avoir deux applications qui tournent en même temps. Donc voilà, donc là on en a trois. Donc c'est assez intéressant. Je pense que l'idée d'avoir une vidéo YouTube ou Netflix qui tourne dans un coin tout en étant sur WhatsApp ou sur Gmail, je pense que ça va parler à. Ou sur, ouais, sur Gmail, ça va parler à pas mal de monde. Et donc voilà, donc on se retrouve avec des usages qui étaient réservés à l'ordinateur qui arrivent sur mobile. Donc voilà, donc ça c'est pas mal. Et au-delà de ça, donc ils introduisent aussi un contexte un concept d'app continuity. Je sais pas si c'est le terme qu'ils retiendront au final, mais l'idée c'est vous pouvez commencer à utiliser votre téléphone sur l'écran à l'extérieur, sur la façade, et interagir avec, je sais pas, mettons Google Maps par exemple, comme ils l'ont montré dans la présentation. Et en ouvrant votre appareil, vous allez vous retrouver avec Google Maps déjà chargé, qui vous présente exactement les mêmes informations. En gros, sur la carte, vous êtes exactement au même endroit que l'endroit où vous étiez sur l'écran extérieur. Et voilà. Et donc l'application est déjà, en gros, est déjà chargée et est prête à être utilisée sur l'écran déplié. Donc c'est pas mal. Honnêtement, pour avoir vu des vidéos de prototypes d'appareils concurrents, on n'a pas encore vu, je pense, comment dire, de support logiciel aussi abouti. Donc on sent que Samsung a fait beaucoup d'efforts et même par rapport à ce qu'ils ont présenté lors de leur conférence aux développeurs en novembre. Puisque je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait déjà eu le président de Samsung sur scène qui nous avait présenté un prototype. On sent qu'ils ont fait des progrès. Et puis il faut savoir que Google eux-mêmes ont aussi en novembre annoncé le support par le système d'exploitation, par Android, le support des écrans pliables. Donc en gros, c'est comment dire, c'est des configurations qui vont être prises en compte directement par le système d'exploitation. Donc ça veut dire que les développeurs Android n'ont pas forcément besoin de se soucier uniquement de. Alors j'imagine qu'il y aura quand même des spécificités entre chaque constructeur, mais globalement on peut approcher ces écrans pliables de façon assez générique au départ. Et puis il y aura probablement, comme toujours, hein, les gens qui développent sur Android savent que Samsung en particulier, mais c'est pas forcément les seuls, ont toujours des petites spécificités, des choses qui marchent que chez eux, ou des choses qui devraient marcher mais qui ne marchent pas chez eux, etc., etc. Mais bon, globalement, on peut espérer que ça soit pas complètement dès le départ un cauchemar pour les utilisateurs, pour les développeurs Android. Donc à voir. Un truc que je me dis, c'est que avec un appareil à ce prix-là, il y aura probablement pas beaucoup de ventes. Donc, ce sera intéressant de voir quels sont les développeurs d'applications qui vont s'amuser à customiser leurs applications pour supporter un appareil comme ça, sachant que on parlera de quelques milliers ou quelques dizaines, peut-être quelques centaines de milliers d'appareils au départ. Donc voilà. Donc voilà ce qu'il y avait à dire pour le Galaxy Fold. Donc on en sait beaucoup plus maintenant sur l'appareil. Mais encore une fois, moi je suis assez curieux de voir les premiers retours de journalistes ou de youtubeurs tech sur la question. Parce qu'il semblerait qu'il y ait un embargo et que Samsung ne laisse pas encore l'appareil dans les mains de la presse en fait. Donc voilà. Donc c'est pas exact, c'est pas les seules choses qui ont été présentées, même si c'est vrai que c'était quand même le plus gros de la présentation. Il y a aussi bah, la nouvelle gamme des Galaxy, donc le Galaxy 10, Galaxy S10 pardon, qui a été présenté. Donc on en a trois en fait qui ont été présentés cette fois-ci. Donc on a le S10e, le S10 tout court et le S10 Plus. Donc les S et enfin S classique et S plus, c'était quelque chose qu'on avait l'habitude de voir. Par contre, le S10e, a priori, c'est un nouvel appareil. Hein. On sent que bah, Samsung marche un petit peu dans les pas d'Apple de ce point de vue-là, dans le sens où même pour ce qu'on appelle leur flagship, donc leur appareil phare, ils se mettent à décliner ça en trois versions. la version le S10 Plus qui est donc un grand écran, le S10 qui est un écran entre guillemets normal, et le S10e qui est l'écran est un peu plus petit, mais on sent qu'ils ont surtout réduit un petit peu les caractéristiques techniques pour le rendre un peu plus abordable. Je me rappelle plus exactement des prix, mais je crois que c'est de l'ordre de 700 $. C'est assez cher finalement pour un appareil entre guillemets économique, mais on voit qu'il s'aligne clairement sur ce que fait Apple en proposant des appareils haut de gamme, la version entre guillemets économique d'un appareil haut de gamme. Donc le prix reste assez important, ça n'a rien à voir avec les appareils de type Android One ou les appareils les Android de type enfin les Android chinois à 200 $. On est quand même dans un appareil qui est très haut de gamme. Donc ceux-là, par contre, j'ai pu jouer avec, j'ai pu les prendre en main. Et on a vraiment des très 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 bons appareils. Je continue à utiliser le Pixel, mais je pense que je vais me mettre à utiliser un S9 que j'ai récupéré là dans les semaines qui viennent pour retester un petit peu Samsung, que j'ai pas eu l'occasion d'utiliser depuis très très longtemps. Donc le S9, enfin les S9 étaient déjà de très très bonne facture. Là, on sent que Samsung a encore franchi une étape en termes de finition, de qualité de la finition. Enfin, on a vraiment des appareils de très 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 bonne qualité en main. Donc voilà. Donc clairement, je recommande. Enfin, je recommande. J'ai pas besoin de recommander, mais je suis très impressionné en fait par la qualité des appareils. C'est vraiment de très très beaux appareils. Avec alors trois caméras, enfin trois appareils photo plutôt. Alors par contre, l'appareil photo du S10 Plus sur la façade. Ah oui, aussi un truc que j'ai oublié de préciser. Faut juste en parler. Donc Samsung fait ce que je sais plus exactement quels sont les autres constructeurs. Je crois que c'est Huawei qui a sorti un appareil avec un trou à la place de l'encoche. Mais Samsung, en fait, ne fait pas d'encoche, un petit peu comme l'essentiel des autres fabricants de téléphones portables ou de smartphones, en fait, ont pris l'habitude de faire là depuis quelques années. Samsung a pris le choix de ne pas faire d'encoche. Et donc là, ils sortent un appareil avec, malgré tout, l'écran bord à bord, aussi bien vertical et horizontal. Par contre, la technique qu'ils ont utilisée pour la caméra de façade, en fait, c'est un trou. Donc on a un petit trou dans l'écran, donc une zone noire entre guillemets hein, sur votre écran. Ils ont logé le module photo pour en façade dans ce trou-là. On a un trou rond pour le S10e pardon, et le S10 classique. Par contre, le S10 Plus a deux appareils photo en façade. Donc on a, je sais pas comment le dire, on a une espèce de rectangle avec les bords arrondis en fait. Donc ça prend pas beaucoup de place. On entend beaucoup de gens entre guillemets se plaindre de l'aspect esthétique de la chose. Pour être très honnête, moi je trouve que c'est assez malin, c'est assez bien pensé. Et je pense que c'est le genre de choses dont on s'habitue assez vite. Moi ça me choque absolument pas et je suis sûr que ça ne posera absolument pas de problème. À l'usage, enfin si tant est que j'achète un S10, ce qui n'est pas forcément garanti pour le moment. Donc voilà, donc je pense que Samsung a vraiment trouvé une solution assez élégante et on n'en est pas encore à cacher les appareils photo derrière l'écran, ce qui, à mon avis, sera la prochaine étape. Hein. Je pense que on verra bientôt, en gros, l'écran qui stoppe, comment dire, qui devient transparent et qui arrête d'afficher des pixels dans une zone particulière pour laisser le module de caméra selfie voir à travers. Je pense que ça c'est le futur entre guillemets, mais on en est probablement encore assez loin. Il faudra peut-être attendre 1 ou 2 ans avant de voir ce genre de choses apparaître pardon. Cette idée de faire un trou dans la façade, dans l'écran de façade, enfin dans l'écran principal, dans l'écran tout court, c'est à mon avis une très bonne idée. Donc le S10, ce que je voulais dire, c'est que le S10 a deux caméras, et donc il y a une caméra, deux caméras selfie en fait, une resserrée et une plus large. Très honnêtement, ça n'a rien à voir avec ce que propose le Pixel 3. La caméra grand angle de selfie est pas aussi bonne que ce qui peut exister sur le Galaxy S de Pixel, plutôt, Pixel 3. Je pense que c'est si vous aimez les selfies, je pense que le Pixel 3 reste quand même reste quand même clairement le meilleur appareil de ce point de vue-là. Donc voilà pour les Galaxy. Je me rappelle plus exactement des prix, mais on est du même, enfin un peu dans la même gamme habituelle. Donc faut s'attendre à des appareils qui sont très chers ou en tout cas qui sont alignés niveau prix avec les iPhones. Un truc marrant aussi que j'ai noté, donc ils annoncent le pack le comment dire le package eco-friendly. Donc je suis désolé, ça fait beaucoup d'anglicisme, mais en gros la boîte dans laquelle le téléphone va être vendu est entre guillemets écolo, voilà, j'ai trouvé le mot. Donc voilà, donc c'est marrant que Samsung, alors qu'on est quand même à un événement high-tech où la chose qui est mise en avant en général, c'est les specs la qualité du hardware, commence à parler aussi un petit peu d'écologie. Samsung, Google, pardon, Apple le fait beaucoup en parlant du recyclage de ses iPhones. Samsung parle pas du tout de ce genre de choses, mais nous dit quand même que le packaging est écolo. Bon. On apprécie l'effort. Après, je sais pas si c'est forcément un truc dont on se rappellera. À voir si c'est juste un coup d'essai ou s'il réitère l'expérience plus tard. Donc voilà. Donc c'est pour les Galaxy. On parle de jusqu'à 1,5. Je crois que c'est 1,5 téra de stockage avec la carte SD. Donc c'est pareil, vous pouvez mettre énormément de photos sur votre téléphone. 1 téra, c'est complètement délirant. Encore une fois, hein, on a beaucoup de, enfin pas beaucoup de téléphones, d'ordinateurs portables qui ont autant de stockage. Donc voilà, donc si vous achetez la carte mémoire qui va bien, vous pouvez avoir jusqu'à 1,5 téra de stockage sur votre Galaxy. Enfin moi je trouve ça complètement délirant. Mais voilà, donc Samsung vous offre ça. Et puis ils ont aussi annoncé au passage que donc ça fait 10 ans que enfin que Samsung a démarré sa gamme de Galaxy. D'ailleurs, c'est assez marrant, j'ai le premier Galaxy, je l'ai là quelque part dans un carton. Donc à l'époque, il avait été lancé. C'était le premier téléphone Android de Samsung lancé en 2000, 2000 2000 8, non 2009, ouais, du coup 2009, lancé aux Pays-Bas, en France et en Corée. Donc voilà, donc c'est assez rigolo de se dire que on en est déjà à 10 ans de téléphone Samsung, à une époque, donc une période qui était largement dominée par Samsung. Il semblerait que les choses soient en train de changer puisque Samsung est en train de perdre du terrain par rapport à Huawei. Apple est toujours bien positionné, mais clairement. On va dire que Samsung a beaucoup de soucis à se faire pour la décennie à venir et il y a de grandes chances pour qu'ils perdent leur positionnement en tant que numéro 1 de la téléphonie mobile. Enfin, ils l'ont déjà perdu effectivement, mais je pense qu'ils auront beaucoup beaucoup de mal à le gagner et ils auront beaucoup de mal à ne pas perdre de terrain face aux constructeurs chinois et Huawei en particulier. Donc, pardon. Donc voilà. Mais pour en revenir un peu sur les appareils qui ont été présentés. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire pour les Galaxy. Maintenant, je vais vous parler des accessoires. Un truc que beaucoup de gens attendaient, c'est les Galaxy Buds. Donc on parle d'écouteurs sans fil. Donc vraiment sans fil, pour le coup, on a deux écouteurs séparés qui se logent dans les oreilles et qui sont donc Bluetooth. Un petit peu à la façon des AirPods de Apple. Ça faisait partie des cadeaux donnés aux invités. Donc, j'ai la chance d'avoir pu jouer avec et de les avoir utilisés en fait au cours des 4-5 derniers jours. Donc, je peux donner un avis assez objectif entre guillemets sur la question. Enfin, je sais pas si c'est assez objectif, mais je peux donner un avis en tout cas de première main sur la question. Pour être très honnête, j'utilise des AirPods aussi hein, pour aussi. Être complètement clair, qui sont, oui, je suis désolé, vous entendez probablement vos amis utilisateurs d'iPhone vous parler de leurs AirPods et à quel point les AirPods c'est génial, mais je serais assez d'accord pour dire que les AirPods sont assez phénoménaux en termes de design, d'ergonomie, mais aussi même de qualité. Et ça paraît assez bizarre hein, à croire. Enfin, les gens qui sont sceptiques, je comprends tout à fait parce que j'ai fait partie de ces gens-là aussi. Mais c'est assez difficile d'imaginer qu'un appareil aussi stupide, entre guillemets, puisse mériter autant d'éloges. Mais je pense qu'on est vraiment en présence de ce que fait Apple de mieux, en fait, dans le sens où c'est un appareil qui est très simple, c'en est presque stupide, en fait, de simplicité, mais qui est extrêmement bien pensé, et il y a tout un tas de détails qui font que, bah, finalement, les AirPods sont quand même mieux que les Galaxy Buds. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais essayer de pas trop parler des AirPods, mais déjà, le simple fait d'avoir la boîte qui ressemble un petit peu à un paquet de cigarettes, un mini paquet de cigarettes, donc ça tient vraiment très bien en main. Et puis après, il y a tous les systèmes d'aimant qui font que bah, quand il est fermé, il est vraiment fermé et il souffre pas tout seul dans votre poche. Et puis même les écouteurs sont eux-mêmes aimantés. Et donc du coup, bah, en gros, vous glissez l'écouteur, il vient se positionner automatiquement, correctement, puisque c'est aimanté, et il se met à se charger tout seul donc quand il est dans la boîte. Et donc encore une fois, ça paraît assez simple comme ça, mais c'est vraiment très bien fait. C'est vraiment très bien pensé. Et donc pour en revenir au Galaxy Buds, donc on est un peu dans la même idée. On a cette boîte qui embarque aussi une batterie. Donc une fois que vous positionnez vos écouteurs dans la boîte, ils se chargent tout seuls. Mais par exemple, typiquement, il me semble que le chargement, c'est pas un chargement par induction en fait, à la différence de Apple. Il me semble qu'Apple utilise induction. Pour charger les AirPods à l'intérieur de la boîte. Là, chez Samsung, on a des espèces de petits picots, donc c'est un chargement par contact qui marche pas trop trop mal, mais il n'y a pas l'idée de. Enfin, y a toujours. Moi, je sais que j'avais toujours un doute en me disant est-ce que je les ai bien positionnés, est-ce qu'ils sont vraiment en train de se charger. Pour ce qui est de l'appairage, donc pareil, on a le même système d'appairage que pour les AirPods. On ouvre la boîte en fait à proximité de l'appareil auquel on veut appairer les écouteurs et il s'appaire tout seul, donc ça c'est vraiment bien pensé aussi. Mais pour en revenir à la qualité, bah il y a quand même ça laisse quand même un petit peu à désirer. Alors là encore, c'est fait par AKG dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la société audio qui a été rachetée par Apple l'année dernière, il me semble, ou il y a 2 ans. Donc il y a tout un tas de comment dire d'ingénierie qui a été développée pour faire en sorte que la qualité soit au rendez-vous. Mais malgré tout, le son est bon. Mais par contre, quand il s'agit de passer un coup de fil, par exemple, c'est pas aussi bon qu'un AirPod. On a clairement, enfin moi j'ai passé un coup de fil avec et on disait de l'autre côté que le son était comment dire très très faible et qu'on n'entendait pas très très bien ce que je disais, à tel point que finalement j'ai surpassé sur le combiné pour passer mon téléphone et j'ai pour passer mon coup de fil plutôt et j'ai déconnecté les Pixel Buds. Donc voilà, donc ça c'est quand même pas génial. Et puis bah, y a aussi un truc à dire, c'est que les appareils comme ça qui sont les écouteurs sans fil, il y a toujours des petits problèmes de synchronisation. Et c'est un truc qu'on observe aussi avec les AirPods d'ailleurs, hein. C'est assez marrant. Alors bon, j'ai beaucoup de. C'est assez facile entre guillemets d'avoir des AirPods à proximité. Et je me rends compte en fait que quand je marche à côté de quelqu'un qui a des AirPods, eh ben de temps en temps il y a une désynchronisation qui s'opère. Alors je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais on parle de Bluetooth, donc les AirPods communiquent via Bluetooth avec votre appareil mobile. Et du coup, bah, quand ils sont désynchronisés, c'est assez facile. Il y a cette espèce d'écho en fait qui se met en place, puisque l'oreille gauche ou l'oreille droite est légèrement décalée. Enfin, l'oreille gauche est légèrement décalée avec l'oreille droite, et donc il y a une espèce d'effet écho. Et donc ça arrive avec les AirPods de temps en temps quand, bah, comme je le dis, je passe à côté soit d'une source Bluetooth très importante, soit de quelqu'un qui porte aussi des AirPods. Ça arrive de temps en temps, mais c'est quand même pas systématique. Mais par contre, bah, on l'observe beaucoup plus souvent avec les Pixel Buds. Et pour le coup, des fois, même quand a priori il n'y a pas de source Bluetooth importante à proximité. Pareil, quand votre téléphone mobile est dans votre poche, dans votre poche de pantalon et qu'il y a entre guillemets une distance un peu plus importante entre un appareil, enfin un des deux AirPods par rapport à l'autre, ben c'est pareil, on a une, un espèce de décalage qui s'opère. Donc je suis pas forcément, je sais pas, je vais continuer à les utiliser, mais je pense que peut-être qu'il va y avoir des mises à jour logicielles de des AirPods en question qui vont corriger ça. Ça me donne quand même l'impression d'être pas aussi performant que les AirPods, encore une fois. Donc, bon, je suis désolé, j'ai dit beaucoup AirPods, mais faut dire que ils sont quand même nettement supérieurs par rapport aux Pixel Buds. Donc, en tout cas, c'est mon impression. Je guette un petit peu les retours de la presse et des blogueurs tech sur la question. Mais voilà, c'est un appareil qui est chouette, qui est bien pensé, mais je suis pas complètement convaincu encore. Voilà. Donc je me rends compte que ça fait déjà 35 minutes que je parle, donc je vais accélérer. Voilà ce que j'avais à dire pour les Pixel Buds. Ça supporte Bixby forcément, hein, comme toujours. Bixby d'ailleurs, qui au passage arrive en allemand, en italien et en espagnol. Je pense qu'il est déjà présent en français, en anglais et en coréen. Et peut-être d'autres langues que j'oublie. Donc voilà, donc Bixby a priori n'est pas complètement abandonné. Moi c'était d'ailleurs pour ça que j'étais invité à cet event d'ailleurs pour tout vous raconter parce que je fais partie du programme de développeurs Bixby. Donc voilà, à voir un petit peu ce qu'il en retourne. Mais bon, Bixby est supporté. D'ailleurs, que j'ai pas encore tellement utilisé, donc je vais essayer d'utiliser un peu Bixby dans les semaines à venir et vous faire du retour. Mais voilà, c'est supporté directement au niveau des Pixel Buds. Donc je sais pas exactement ce que ça veut dire. Je pense que si votre appareil a pas Bixby, à mon avis, il y a probablement une application à installer ou quelque chose comme ça pour supporter Bixby à partir des Pixel Buds, des Galaxy Buds. Donc voilà, à voir ce qu'il en est à ce point de vue-là. Je pense que je serai capable de vous faire un retour dans quelques semaines. Bon, pour conclure aussi, on a l'arrivée de une mise à jour de la Galaxy Watch Active et du Galaxy Fit. Donc là, c'est un peu un classique, hein. Tous les ans, Samsung remet un petit peu au goût du jour ces appareils-là qui m'intéressent un peu de loin. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé d'Android Wear. Je sais que la Galaxy Watch Active, à ma connaissance, n'est pas Android Wear puisqu'elle utilise une version modifiée de Tizen qui est un système d'exploitation propre à Samsung. Bon, la Galaxy Fit, pareil, donc ils annoncent une semaine d'autonomie. Donc là, c'est le bracelet connecté avec écran de Samsung. Donc ils ont annoncé au passage une nouvelle Galaxy Tab, donc la Galaxy Tab 5 SE. C'est assez marrant parce qu'ils l'ont vraiment annoncé en passant. Donc ça prouve que le marché des tablettes est vraiment en train de décliner et que Samsung continue à faire des tablettes, mais c'est vraiment les seuls. Et même eux, ils disent bon, on en parle vite fait, mais c'est pas très intéressant. Donc voilà. Donc je sais pas exactement ce qu'il en est. Enfin, je l'ai vu en démo. Elle est très jolie, elle est très belle. Le son a l'air bon, mais voilà, c'est pas forcément la chose qui captive l'intérêt des foules en ce moment. Pour conclure aussi, un petit mot rapide en passant du Galaxy S10 5G. Donc là, c'est assez fascinant en fait cette histoire de 5G. On a beaucoup de conversations ici, et je sais que c'est la même chose en France sur la 5G parce que finalement les normes sont pas encore complètement arrêtées. Mais on a déjà des fabricants d'appareils mobiles qui annoncent des téléphones 5G. Donc je crois que le S10 5G, alors je sais plus si c'est le premier ou si c'est un des premiers appareils 5G annoncés. Je sais que Huawei va aussi annoncer ou a déjà plus ou moins annoncé son appareil 5G. Bon voilà, la 5G pour l'instant on ne sait pas exactement ce que c'est. Pour être honnête, même ici, les constructeurs nous entubent, pardon, les opérateurs nous entubent un peu avec le concept de 5GE, 5G Evolution, qui est pas du tout de la 5G, qui est une espèce de 4G++, mais ça a absolument rien à voir avec avec la promesse de la 5G. Donc Samsung fait un appareil 5G, un appareil S10 5G spécial, a priori pour leur marché coréen et aussi pour le marché américain, mais encore une fois, on va attendre de voir ce qui se passe au niveau des opérateurs. En gros, c'est un peu un S10 Plus sous stéroïde avec des puces, forcément les puces radio qui vont bien, mais aussi un peu plus de puissance de calcul. Il me semble que l'appareil est légèrement plus gros, même s'ils ont dit que il n'était pas aussi gros que les versions 5G habituelles des flagships. Et puis il y a un support AirCore approfondi. Donc AirCore, c'est la réalité augmentée, le framework de réalité augmentée de Google. Donc voilà. Donc je sais pas exactement que penser de cet appareil Samsung S10, Galaxy S10 5G. Si ce n'est qu'a priori c'est le début de la 5G, mais très clairement je vous conseille d'attendre et de voir un petit peu ce qu'il en est au niveau des opérateurs. De toute façon, il n'est pas disponible en France pour le moment. Je sais même pas quand est-ce qu'il sera disponible aux États-Unis ou en Corée. Voilà, la 5G, à mon avis, les choses deviendront assez claires et assez sérieuses dans les 2 ans à venir. Je pense qu'on pourra en discuter avec Nico, c'est lui l'expert sur la question. Pour l'instant, c'est plus un effet d'annonce qu'autre chose. Voilà. Et on arrive à 40 minutes et je suis désolé, j'ai vraiment beaucoup parlé. Donc voilà, j'espère que ce petit retour sur cet événement vous a plu. Continuez à suivre les actualités tech parce que là, c'est le MWC, donc il y a plein d'annonces qui vont avoir lieu dans la semaine à venir. Et puis avec Nico, on essaiera de vous faire un épisode peut-être spécial MWC ou peut-être spécial Android, on va voir dans les jours à venir pour parler des nouveautés d'Android et en particulier de Google, puisque il y a tout un tas de choses qui sont annoncées du côté de Google Messages et Google Assistant. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pas été trop long et que vous n'êtes pas trop ennuyé. Et puis écoutez, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode du CKB Show. Allez, à bientôt.